revenir à quelques caractéristiques du temple et puis les parallèles avec le chrétien. En fait, en relisant deux chroniques, les chapitres 6 et 7, là, qui détaillent la prière de Salomon lors de l'inauguration du temple, et puis aussi la réponse de Dieu à cette prière. J'ai été saisi et puis touché par le fait que ce qui s'appliquait au temple, ça pouvait aussi s'appliquer à nous, nous chrétiens. En pensant en fait que nous sommes le temple de Dieu. Voilà le temple du Saint-Esprit. Et alors du coup, ces versets prenaient un relief particulier. En réalisant les promesses de Dieu vis-à-vis de ce temple. Et donc vis-à-vis de nous également. Sachant que ces promesses aussi sont cohérentes avec ce que le Nouveau Testament nous redit, mais voilà, c'est dit peut-être avec d'autres mots, d'autres images, et voilà, qui parlent différemment, en tout cas pour moi. Et voilà, on sait aussi que le Seigneur Jésus est aussi et surtout le temple de Dieu. Dans Jean 2, le Seigneur Jésus dit aux Juifs, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Verset 21, et lui parlait du temple de son corps. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'autres richesses qu'on pourrait trouver aussi dans les caractéristiques du temple qui nous parlent du Seigneur Jésus. Mais Paul, dans 1 Corinthiens et dans 2 Corinthiens, affirme que le croyant est le temple du Saint-Esprit. Et voilà, on peut juste les lire avant de basculer après sur de chroniques. Donc c'est 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et puis 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et puis dans 2 Corinthiens, chapitre 6, chapitre 6 encore, un peu plus loin. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et là, dans ce verset, Paul fait explicitement le lien entre une promesse de l'Ancien Testament concernant le temple et ce qui nous concerne, nous. Puis on peut voir aussi dans 1 Pierre, là il est parlé de Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 5, « Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, édifiez une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc là, c'est peut-être plus l'Église en tant que l'ensemble des croyants et une maison spirituelle, donc un temple aussi. Alors tout ça, qu'est-ce que ça implique? Le temple, c'était le lieu de rencontre avec Dieu, et il était conçu pour remplir plusieurs fonctions, et peut-être trois principales. L'habitation de Dieu, donc la deuxième, c'est le lieu de l'adoration, de la relation qui permet là où on adorait Dieu, où on pouvait être en relation plus particulièrement avec Dieu. Et puis aussi, en troisième fonction, la consécration, la marche de tous les jours. Parce qu'une fois construit, l'édifice, il était consacré au service de Dieu. Il ne pouvait pas servir à autre chose. Et du coup, toute la vie d'Israël était marquée par cette présence de Dieu dans le temple. Voilà, la façon de vivre, la façon de la présence de Dieu avait des répercussions tangibles aussi sur la façon avec laquelle les Israélites pouvaient se comporter. Avec le bonheur ou le malheur, la vie ou la mort aussi, selon les actes des Israélites. Et alors c'est bien dans cet ordre, c'est l'habitation. Dieu vient vers nous, auprès de nous, même en nous. Il se met à notre portée pour qu'on puisse l'adorer pour ce qu'il est, et puis avoir ensuite une relation avec lui. Et c'est de cette vie en nous que qu'on peut avoir cette marche, cette consécration, cette sanctification au fur et à mesure de notre vie avec lui. Et alors, C'est plus les deux premiers aspects que je veux développer, qu'on retrouve peut-être un peu plus dans ces passages de chronique. Et voilà, puis j'ai découvert aussi dans la semaine que Pierre avait donné un message sur la sanctification il y a quelques semaines, donc ça fait le complément. Voilà, donc on va lire ces passages de deux chroniques, voilà, avec en tête que on est le temple du Saint-Esprit, et puis voilà, en pensant aux chrétiens, à nous, là où il est question du temple, et voilà, en pensant à ces promesses faites concernant le temple. Donc 2 Chroniques chapitre 6, à partir de au début du chapitre. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité profonde, mais moi j'ai bâti une maison d'habitation pour toi, un lieu fixe pour que tu demeures à toujours. Et le roi tourna sa face et bénit toute la congrégation d'Israël, et toute la congrégation d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui parla de sa bouche à David mon père, et de sa main a accompli sa parole, disant, depuis le jour que j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai choisi aucune ville d'entre toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une maison, afin que mon nom y fût. Et je n'ai pas choisi d'homme pour être prince sur mon peuple Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem, afin que mon nom y soit. J'ai choisi David pour être roi sur mon peuple Israël. Et David, mon père, avait à cœur de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as à cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. » Toutefois, tu ne bâtiras pas la maison, mais ton fils qui sortira de terrain, lui, bâtira une maison pour mon nom. Et l'Éternel a accompli sa parole qu'il a prononcée, et je me suis levé à la place de David, mon père, et je suis assis sur le trône d'Israël, comme l'Éternel l'a dit, et j'ai bâti la maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et j'y ai mis l'arche, où est l'alliance de l'Éternel qu'il a faite avec les fils d'Israël. On peut aller un petit peu plus loin. Verset 17. Enfin, bon. Et maintenant, Éternel Dieu d'Israël, que ta parole que tu as dite à ton serviteur David soit ferme. Mais Dieu habitera-t-il vraiment avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Donc on voit dans les versets là de Paul que on est le temple de Dieu, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et là c'est un grand thème, celui de qui parcourt un peu toute la Bible, ce thème de l'alliance et de la relation, la proximité de Dieu avec l'homme. Du début en Éden jusqu'à la fin, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la Jérusalem céleste. Dans Apocalypse 21, il est dit « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, ils habiteront avec eux, ils seront mon peuple, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Voilà, dans son alliance, Dieu a voulu vraiment vivre tout proche de nous. Et donc au tout début, dans le jardin d'Éden, Dieu habitait avec Adam et Ève, avant que le péché fasse cette séparation et puis que l'homme soit chassé de la présence de Dieu. Et puis d'ailleurs, on peut trouver beaucoup de parallèles entre le jardin d'Éden et les temples de la Bible. Donc je ne vais pas en développer maintenant, mais il y a pas mal de commentaires sur ce sujet, et notamment une vidéo de The Bible Project qui fait ces comparatifs. Donc, si ça intéresse certains de creuser ça. Et donc, Dieu a toujours souhaité rester proche de l'homme, malgré sa défaillance. Au début, il était proche des croyants individuellement, et puis, collectivement, en fait, tout a commencé en fait, avec une tente. Donc, après la sortie d'Égypte, le peuple voyageait vers Canaan, vers la terre promise. Le peuple faisait du camping. Dieu a demandé de fabriquer une tente spéciale pour lui. dans Exode 25, hein, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Et donc le livre de l'Exode explique en détail comment construire cette tente, hein, le tabernacle, et que faire, que y faire. Et voilà, Dieu aurait pu rester au ciel, mais il est laissé aller tout seul dans le désert et peut-être communiquer juste avec Moïse, particulièrement de façon spécifique et individuelle, mais non, il a voulu les accompagner. Et le peuple d'Israël vivait sous les tentes, et Dieu a aussi voulu vivre sous la tente, au milieu d'eux, auprès d'eux, pour manifester sa présence auprès de tous les Israélites. Oui, Dieu a toujours voulu nous rejoindre là où nous étions. Et voilà, le peuple était en route vers la terre promise, et Dieu a voyagé avec eux, en marchant même devant eux dans cette colonne de fuée, cette colonne de nuée de feu pour les conduire à destination. Voilà, plus tard en Canaan, les Israélites ont construit des maisons et pour leur famille, et puis Dieu aussi s'est fait construire une maison. Dieu a mis à cœur à David ce désir de construire une maison pour lui, le temple de Jérusalem que Salomon a fait construire. Et est-ce que Dieu a vraiment besoin d'une tente ou d'une maison sur la terre? Bien sûr que non, mais on pourrait même se dire, qui oserait faire une tente pour Dieu ou une maison pour Dieu? Mais voilà. C'est Dieu qui avait demandé à Moïse de faire cette tente, et puis après, David a eu à cœur de faire de ce lieu d'habitation de Dieu quelque chose d'aussi quelque part confortable que le palais que lui s'était fait construire. Et donc il a eu à cœur de ça, et Dieu a validé. On a lu ce verset où Dieu a dit à David que c'était bien qu'il ait eu à cœur cela. Et alors, donc c'est ce Dieu qui est immensément grand et qui est aussi saint, qui s'est fait proche. Et à l'époque, dans le temple, donc il fallait respecter cette distance. À cause de sa sainteté, c'était dangereux de venir trop près. Il y avait uniquement le grand prêtre qui était autorisé à rentrer dans ce lieu très saint, une partie du temple, et encore une seule fois par an. Et il fallait de plus quand même beaucoup de sacrifices d'animaux pour permettre ça. Et ça montre combien il est difficile de s'approcher de Dieu et de vivre dans sa présence. Et alors, qui peut entrer dans cette maison et vivre, ou même être autour de cette maison? Pour des pécheurs, c'est impossible, mais on l'a rappelé ce matin encore que on a cette possibilité au travers du sacrifice du Seigneur d'être sanctifié pour pouvoir être dans cette présence. Donc il y a eu cette tente, le tabernacle, ensuite le temple. Ce temple aussi, il nous y pointait vers Jésus-Christ, ce Emmanuel, donc Dieu avec nous. Et dans Jean, Jean nous dit que la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et le terme habité parmi nous, je crois que c'était un tabernaclé, enfin c'est un peu le même terme. Il a dressé sa tente parmi nous. Et Dieu est venu habiter parmi son peuple. Voilà, et maintenant le Seigneur Jésus est plus avec nous, en chair et en os. Mais une fois qu'il est reparti, Dieu s'est fait encore plus proche quelque part. Quand il a envoyé son esprit à la Pentecôte, là, dans dans le cœur des disciples et puis de tous les croyants. Voilà, on est cette habitation de Dieu. Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit en nous. Et alors, il y a ce verset 11 qu'on a lu, qui est touchant, avec une image, je trouve. C'est, le verset 11, c'est « Et j'ai mis l'arche dans le temple, où est l'alliance de l'Éternel qu'il a faite avec les fils d'Israël. » L'arche, c'était le symbole de l'alliance de Dieu avec le peuple. Et voilà, de la même façon que Dieu a mis cette arche, t'as demandé à ce que cette arche soit mise dans ce temple, eh bien, voilà, Dieu a mis en nous son temple, le Saint-Esprit, comme marque de l'alliance de Dieu en nous. Il y a ces versets de Corinthiens qui nous disent que Dieu nous a scellés, nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. L'Esprit en nous, c'est les arts de notre héritage, c'est cette alliance qui est en nous, cette assurance d'être à lui. Et donc on est le temple de Dieu, le temple du Saint, dans lequel il a mis son Saint-Esprit. Et voilà, c'est des choses connues, mais voilà, moi, ce parallèle avec le temple et cette arche, voilà, ça me fait réaliser peut-être un peu plus ou différemment ce que Dieu a mis en fait en moi, en chaque chrétien. Et alors tout ça, c'est des choses bien connues. C'est qu'est-ce qui doit en découler? Je pense qu'il ne faut pas s'y habituer comme si c'était normal, parce que c'est pas naturel. Et puis voilà, l'important c'est de penser à ça et de garder un cœur reconnaissant et plein d'humilité. Comment est-ce possible que ce Dieu si saint daigne venir habiter en nous une maison si petite et si peut-être sale et délabrée par endroits. Et alors, on peut avoir envie de dire comme le psalmiste là, qui dit « Porte, élevez vos têtes, élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera » pour agrandir la porte de notre maison pour que Dieu puisse entrer. Mais voilà, c'est un peu peine perdue, la marche est beaucoup trop grande, mais voilà, on sait que Dieu nous dit que pour être élevé, il faut s'abaisser devant lui, dans l'humilité. Et puis là, Dieu nous relève à la bonne hauteur, quelque part, qui lui permet d'entrer. On peut noter aussi que ce temple, il a été bâti à partir d'énormes quantités de matériaux précieux, de l'or, de l'argent, du bois noble. Et c'est un temple qui est précieux, qui est magnifique. Et c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Mais encore presque plus que ça, plus que cette image, parce que nous, on n'a pas été quelque part construit avec des matériaux précieux, mais on a été racheté par le sang précieux de Christ. Et voilà, c'est ce qui fait notre valeur, chacun aux yeux, ma valeur, la valeur de chacun de nous. Et alors, est-ce que Dieu en nous, Dieu habitant en nous, est-ce que dans nos projets, dans nos joies, dans nos peines, dans tout ce qu'on peut vivre, est-ce que cette présence transparaît dans nos vies autour de nous? Voilà, on voit pas l'Esprit de Dieu, mais l'effet de sa présence devrait paraître. Et puis, devrait paraître. Et puis, on sait que... Je suis sûr qu'elle paraît en connaissant les uns ou les autres. Elle paraît, mais voilà, on peut s'encourager à le laisser agir plus pour qu'elle paraisse encore plus. Et alors, avant de passer à la deuxième partie, je vous propose juste de relire quelques versets de ce qu'on a lu. Là, au verset 2, au verset Dieu, il parlait de ce lieu fixe pour que Dieu y demeure à toujours. Voilà, et c'est aussi ce que nous sommes. Dieu demeure toujours. Il a choisi aussi cette ville pour construire ce temple afin que son nom y soit. Et ce temple, il a été bâti aussi pour le nom de l'Éternel. Et voilà, et il y a cette arche qui a été déposée où est l'alliance de l'Éternel qu'il a faite avec son peuple. Et puis enfin, aussi ce verset 18, « Mais Dieu habitera-t-il vraiment avec l'homme sur la terre ? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie ?» Et donc je vous propose maintenant de regarder, de poursuivre la lecture pour y voir un peu le deuxième aspect du temple, qui est cet aspect de l'adoration, de la relation. Donc après ce verset 18, on peut poursuivre. « Cependant, Éternel, mon Dieu, aie égard à la prière de ton serviteur et à sa supplication pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse, pour que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu où tu as dit que tu mettrais ton nom, pour écouter la prière que ton serviteur t'adressera en se tournant vers ce lieu-ci. » Et écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël qu'ils t'adresseront en se tournant vers celui-ci. Toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, écoute et pardonne. Là, on voit que Salomon peut-être a un peu de peine à réaliser que Dieu puisse se faire si proche, parce que là, il le considère toujours dans les cieux, dans ces versets. Écoute des cieux, du lieu de ton habitation, écoute et pardonne. Voilà, mais peut-être qu'il a compris que pour que Dieu puisse rentrer dans ce temple sur la terre, aux côtés du peuple, sans risque pour l'homme, il faut avant tout cette repentance de l'homme, voilà, et que Dieu puisse écouter cette repentance et puis pardonner, pour qu'il puisse venir sans juger, mais qu'il puisse venir. Voilà, avec grâce. Ensuite, après ces versets, Salomon écrit toute une liste de cas de prière qui précise un peu le verset 21. Ces prières que le peuple adressera à Dieu. Il y a des prières de repentance, des prières d'intercession, des prières de demande de secours et de justice, et puis encore d'autres prières de repentance. Et puis, voilà, il y a quelques versets qui nous montrent ce que Salomon demande à Dieu suite à ses prières. Au verset 30, c'est « Et alors, toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, et pardonne, et donne à chacun, selon toutes ses voies, suivant que tu connais son cœur, car tu connais toi seul le cœur des fils des hommes. » Puis au verset 33, « Alors, toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, et agis selon tout ce que l'étranger réclamera de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom et te craignent, comme ton peuple Israël, et qu'ils sachent que cette maison que j'ai bâtie est appelée de ton nom. » Au verset 35, « Alors écoute des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. » Au verset 39, « Alors écoute des cieux, du lieu de ton habitation, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit et pardonne à ton peuple ce en quoi ils ont péché contre toi. » Maintenant, mon Dieu, que tes yeux, je te prie, soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière qu'on te fera de ce lieu-ci. Et maintenant, Éternel, lève-toi pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes saints se réjouissent en ta bonté. Éternel Dieu, ne repousse pas la face de ton nom, souviens-toi de tes grâces envers David, ton serviteur. » Là, on voit dans ces versets l'entrée de Dieu dans le temple. Il évoquait l'entrée de Dieu dans le temple. Et voilà, entre dans ton repos, toi et l'arche de ta force. C'est voilà, une image peut-être de l'esprit qui rentre en nous à notre conversion. C'est peut-être, il est parlé de ce repos. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi quelque part un repos pour le Saint-Esprit, parce que l'œuvre du salut est accomplie et vraiment aboutie dans un nouveau chrétien. C'est que l'Esprit travaille pour attirer les hommes à Dieu. Donc il y a quelque part un repos, même si on sait que l'Esprit travaille encore beaucoup en nous après. Et voilà, dans cette versets, il est parlé de cette de joie, de salut, et puis voilà, d'adoration, parce qu'il est parlé de sacrificateurs qui œuvrent dans le temple. Et donc avant la mention des sacrifices et de la joie de ces saints, il y a toute cette série de prières de confession, de repentance, d'intercession, de demande de justice, et Salomon commence bien par là, commence par la demande à Dieu de pardonner. Il est bien conscient du besoin du pardon de Dieu, parce que c'est la première nécessité pour pouvoir lui parler. Et voilà, pour nous aussi, la confession aussi nécessaire de la marche de tous les jours. On sait que Dieu a réglé une fois pour toutes la question du péché à la croix, et que ce pardon nous est acquis définitivement quand on répond à l'appel de Dieu. Et alors Salomon, qu'est-ce qu'il demande par rapport à ce peuple ? Il demande que Dieu écoute, pardonne, entre, sauve et donne la joie à ses saints. Quelque part, c'est un peu osé comme prière, mais c'est ce que Salomon a compris que c'était ce que Dieu voulait. Et donc en fait, si on poursuit ensuite au chapitre 7, on voit la réponse de Dieu à cette prière de Salomon. Donc au verset 1 du chapitre 7, « Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Voilà, il y a l'entrée de Dieu dans ce temple, seulement après que ce feu du jugement, peut-être, enfin, l'image du jugement soit tombée sur l'Holocauste et les sacrifices, qui sont bien sûr une image de l'œuvre du Seigneur qu'on a rappelée ce matin. Et c'est une entrée, l'entrée de Dieu dans le temple est assez extraordinaire. Elle est. C'est ce qui se passe à notre conversion, le Saint-Esprit qui vient nous remplir, nous remplir de cette gloire qui vient remplir tout le temple, qui vient nous remplir entièrement. Et dans ce cas, si l'Esprit nous remplit entièrement, rien d'autre ne peut entrer, et on a besoin de rien d'autre. Et voilà, c'est ce que veut faire le Saint-Esprit en nous, et voilà, est-ce qu'on le laisse nous remplir entièrement ? Est-ce que on remplit si facilement notre maison, enfin du coup notre cœur de bien des choses, voilà, qui sont pas forcément très utiles, toutes très utiles, et qui prennent de la place, et qui prennent cette place de l'esprit qui peut-être attriste l'esprit, ou en tout cas limite son action et son rayonnement aussi en nous et autour de nous. Si on reprend la lecture, on voit tous les innombrables sacrifices qui sont réalisés pour l'occasion. Et donc, toutes ces prières de Salomon, ce n'était pas juste des mots, des paroles, mais ça s'accompagnait aussi d'actes. Et puis ensuite, au verset 12, voilà, l'Éternel répond. L'Éternel apparut de nuit à Salomon et lui dit « J'ai entendu ta prière et je me suis choisi ce lieu-ci pour une maison de sacrifice. » Voilà, ce temple, c'est une maison de sacrifice et voilà, Dieu nous a choisi pour lui rendre gloire, pour lui rendre ses sacrifices de louange dont parle l'Épître aux Hébreux. Hein, offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. En tant que chrétien, j'ai été choisi pour être une maison de sacrifice de louange, pour le louer et pour confesser son nom. Puis au verset 13, « Si je ferme les cieux et qu'il n'y a pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux et je leur pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Là encore, au verset 14, il y a cette mention « j'écouterai des cieux ». Alors, est-ce que Dieu est toujours dans les cieux? Est-ce qu'il est remonté dans les cieux et il est ressorti du temple? Voilà, on sait qu'il y a une distance qui se crée en fait quand on pêche. Voilà, ça rompt la joie de la communion qui est évoquée dans le psaume 51. Et voilà, quand on pêche, quelque part on repousse Dieu hors du temple, on lui laisse pas de place à l'intérieur. Voilà, mais même là, Dieu garde une oreille attentive à nos prières, à ses prières de repentance, et voilà, on sait qu'il est toujours avec nous. Et alors, voilà, c'est versets 15 et 16. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu. Car maintenant, j'ai choisi et sanctifié cette maison afin que mon nom y soit à jamais. Et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Voilà, c'est des promesses qu'on connaît, mais ces formulations, en fait, au sujet du temple, notamment ces deux derniers versets, ça donne des images concrètes, moi qui me touche, et qui aident à les réaliser peut-être différemment ou concrètement. Le verset 15, là, donc. Maintenant, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera de ce lieu. Là, Dieu répond exactement à la demande de Salomon, et qui priait selon la promesse de Dieu à la lettre, en fait, et il répond à la foi de Salomon. Et puis, il explique ensuite au verset 16 pourquoi est-ce que c'est possible. Pourquoi est-ce que voilà, il pourrait être attentif à cette prière? C'est parce que Dieu a choisi et sanctifié cette maison. Et voilà, ses yeux et son cœur seront toujours là sur cette maison. Et si on le lit pour nous, pour chacun, voilà, les yeux de Dieu sont ouverts sur nous et ses oreilles attentives à nos prières. Pourquoi? Parce qu'on a été sanctifié, parce qu'on a été choisi pour que son nom soit à jamais en nous. Pour que ses yeux, c'est son attention, voilà, soit toujours sur nous. Et puis, voilà, son cœur, son amour seront toujours là. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que voilà, donc, je pense qu'on réalise, bah, pas complètement, que Dieu se soit choisi cette maison de sacrifice. Voilà, c'est lui qui nous a choisis, qui nous a sanctifiés pour qu'on soit digne de sa présence et pour qu'on soit ses sacrificateurs qui le louent. Il nous a fait roi et sacrificateur. On est quelque part, on est à la fois le temple et puis les sacrificateurs qui sont dans ce temple pour louer Dieu. À propos de ces sacrificateurs, je vais juste lire un verset d'Apocalypse 5. Ça, c'est les versets 9 et 10. Et il chante un cantique nouveau disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Alors voilà, il y a cette habitation de Dieu, il y a cette possibilité d'adoration, de relation avec lui, voilà, qui entraîne aussi cette consécration et cette marche de sanctification avec lui. Et c'est quelque chose de, voilà, qui nous dépasse, mais voilà, qu'on peut aussi expérimenter jour après jour. Et voilà, on a ce Dieu très bon qui considère ce temple, ben nous, l'Église aussi ensemble, qu'il considère avec bienveillance nuit et jour, qui écoute la prière que son serviteur, la prière que son serviteur et son peuple font en ce lieu, les prières qui montent de nos cœurs, et qui désire aussi manifester sa présence tangiblement, qui désire faire briller sa gloire aussi dans ce temple. Et voilà, alors que sa présence puisse être vraiment manifester en nous pour qu'on puisse briller autour de nous et que tout ça aussi ça puisse nous maintenir dans l'humilité et la reconnaissance et que voilà ça puisse nous pousser à avoir ce désir de vivre chaque jour avec lui. Voilà, lui qui est venu habiter en nous.